l'actualité. Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.
Bonsoir.
Bonsoir, vous êtes bien sur Calibre, une émission de libre antenne.
Sur Radio Kaléidoscope 97 FM.
Donc voilà, ben on est là ensemble ce soir. À la technique, il y a Maud et Laura. Au micro, c'est Marina et Mélanie.
Et on est le 10 février.
Et voilà, exactement.
2011.
et voilà, si vous avez envie de nous appeler ce soir pour nous raconter quelque chose, pour nous poser des questions, pour parler de corps, d'amour et de sexualité, ben vous êtes le et la bienvenue.
À fond. Appelez-nous sans tabou, sans jugement. On essaiera, en tout cas, de discuter avec vous. Et puis quoi dire
Bah pour vous laisser le temps d'appeler, on va s'écouter une petite chanson.
Ah oui.
Mais si vous voulez juste pour avoir un peu, on avait un petit peu quand même prévu de raconter 2-3 choses. Et ouais. Donc si ça vous donne envie de nous appeler, peut-être on peut annoncer vite fait.
Voilà. Alors avant d'écouter une chanson du Tigre, on peut vous dire que après, on parlera de littérature lesbienne. Et puis, encore un peu plus tard dans l'émission, on avait envie de parler un peu de ces histoires d'accouchement sous X, un peu par rapport à l'actualité. Vous avez dû en entendre parler des tentatives de modification de cette possibilité-là, d'accoucher sous X en France, et de qu'est-ce qu'on en pense, nous. Et on est curieuses et curieux aussi de ce que vous en pensez, vous. Donc, voilà, si vous avez envie de nous conseiller un livre lesbien, ou de nous donner votre opinion là-dessus, ou si vous avez envie de nous parler au sujet de l'accouchement sous X, ou d'un sujet un peu lié à ça.
Vous pouvez nous appeler au 04 76 09 09 09.
3 fois 09. On écoute Le Tigre, Let's Run.
Oh, we can live.
Radio Kaléidoscope 97 FM, Calibre, l'émission de Libre Antenne sur les questions de corps, d'amour et de sexualité. Appelez-nous au 04 76 09 09 09.
Bon, bah pour commencer, moi j'avais envie de vous faire partager un peu quelques lectures que j'ai eues récemment, parce que en fait, voilà, j'aime bien bouquiner et dernièrement j'avais plutôt envie de lire des histoires où il y avait des lesbiennes dedans.
Ouais, c'est marrant, ouais, c'est...
toi. Bah ouais, que... comme ça, des fois j'aime bien un peu
ouvrir les imaginaires.
Et du coup, je voulais vous parler notamment d'une auteure britannique qui s'appelle Sarah Waters.
Ah oui.
Vous connaissez peut-être. Et j'ai lu un roman récemment qui s'appelle Ronde de nuit et que j'ai trouvé assez chouette, où ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, un peu avant, un peu après, enfin un peu dans cette période-là, en Angleterre, à Londres même. Et bah voilà, c'est des parcours de vie qui se croisent et tout ça, et c'est assez chouette.
Sarah Waters, elle est assez connue pour, enfin, un de ses romans les plus célèbres, c'est Caresser le velours, notamment parce qu'il a été adapté à la télé anglaise.
Mm-mm.
Tipping the Velvet en anglais.
Et du bout des doigts. Non, et du bout des doigts aussi.
Ouais. Alors, Caresser le velours, je crois que c'est son premier, enfin, un de ses premiers, et après, il y a eu Du bout des doigts, et ensuite, Ronde de nuit. Et c'est vrai que c'est des romans qui sont assez chouettes, à chaque fois qu'ils s'ancrent dans des périodes historiques particulières, et du coup, il y a tout un tas de personnages comme ça et tout, et elle écrit assez bien. Moi, j'aime bien son écriture, effectivement.
Et les films qui ont été qu'est-ce que t'en as pensé
Moi j'ai moins bien aimé, mais souvent je trouve ça souvent décevant quand on regarde un film après avoir lu un roman où on s'est imaginé les personnages à notre façon. Je l'ai trouvé très très lisse en fait. Bon, alors c'est déjà assez incroyable que, enfin, c'est un peu l'équivalent de TF1 quoi. C'est comme si TF1 faisait un film sur des lesbiennes pour le dimanche soir, vous voyez, c'est quand même assez incroyable. Donc c'est déjà pas mal, mais après les personnages sont très enfin, je sais pas comment dire, je les trouvais pas très crédibles pour voilà, pour eux, je trouvais que c'était pas les personnages de lesbiennes très très crédibles. C'est un peu lisse quoi. Forcément, ça a été très lissé, et puis le caractère un peu sulfureux de, par exemple, Caresser le velours, c'est très sulfureux. C'est quand même l'histoire d'une femme qui va se transvestir en homme, qui va se prostituer en tant qu'homme. Qui va rencontrer comme ça une vieille lesbienne hyper riche, qui va lui payer tout, elle se retrouve son amante, enfin, il lui arrive des trucs complètement fous, quoi, et puis c'est, vous voyez, c'est un peu sulfureux, quoi, et alors le téléfilm est très lisse. Donc bon, c'est forcément décevant par rapport au roman, enfin, mais c'est souvent le cas, parce qu'en fait, quand on lit un roman, on peut s'imaginer les gens comme on veut. On leur donne la tête qu'on a envie, on se fait vachement, l'imaginaire est beaucoup plus, se développe beaucoup plus, je trouve. Donc voilà, personnellement, moi, j'ai pas kiffé le film.
Et dans un tout autre registre, j'avais aussi envie de vous conseiller, cette fois, une BD. Mmh. C'est une autobiographie en BD qui s'appelle Fun Home, de Alison Bechdel, une américaine, et qui raconte un peu son enfance comment ça se passe dans sa famille et tout ça, et puis tous les questionnements qu'elle peut avoir par rapport à son identité, à son orientation sexuelle, ouais. Et c'est assez chouette, vraiment.
Eh ben, Alison Bechdel, elle avait déjà écrit une DBD, mais qui sont, je pense, un peu moins connues ou plus d'un public averti, qui était une série de BD qui s'appelait Les Lesbiennes à suivre. Alors en anglais, il me semble que c'était Dyke on Watch For, ou un truc comme ça. Enfin, en américain. Et du coup, c'était un peu une série de BD qui racontait la vie d'une bande de gouines américaines. Alors il y en a certaines, elles veulent faire un bébé, il y en a d'autres. Il leur arrive plein de trucs. Bon, mais voilà, c'est tout un tas de personnages, et c'était assez rigolo et assez représentatif. Ça date des années 90, donc moi, quand je les lis, ces BD-là, j'ai un peu l'impression que je regarde la vie des années 90 de lesbiennes à San Francisco, quoi. Je sais pas si elles se trouvent facilement, ou si c'est maintenant, il faut les trouver d'occasion ou quoi, mais voilà. Lesbiennes à suivre, de Alison Bechdel. Et par contre, Fun Home, ça a été édité, je sais pas à quelles éditions, mais...
Je sais plus. Ouais, non,
mais bon, j'ai... ça se trouve, ouais. Je pense, plus facilement dans les magasins, dans les rayons BD et tout. Ça, c'était une grosse maison d'édition, quoi.
Ouais, ça date de 2006.
Ouais, Ah ouais.
Et du coup, dans ma quête de bouquins sur ce sujet-là, enfin en tout cas où les personnages sont des lesbiennes, je suis aussi tombée sur un bouquin d'Anne Scott.
Ah, donc, mais parce que moi j'allais te dire, c'est que ouais. Les trucs anglais.
Là, bah ouais, bah là, Sarah Anne Water. Scott, malgré son nom, c'est une français. Française. Et d'un bouquin qui s'appelle, j'ai oublié le nom,
non. La Superstar.
La Superstar, ouais, Superstar tout court. C'est un bouquin qui se passe dans les années 90 à Paris. Et pour le coup, bah, j'étais assez, désappointée. Parce que, en fait, finalement, je l'ai presque trouvé lesbophobe, quoi. Enfin, c'est un peu un personnage qui se pose, enfin, qui a des relations avec des filles, pour qui c'est toujours trop la galère, que des histoires de dépendance, de fou et tout ça. Et sa seule envie, c'est de redevenir hétéro. Non,
c'est pas vraiment ça, quand même. Oui, non mais je
vois. Enfin, voilà, en tout cas, on sent qu'elle est dans une ambivalence et que tout ce qu'elle raconte sur les relations entre filles ou même pas que simplement sur ses histoires, mais sur les histoires de ses copines, c'est toujours que des histoires de jalousie, de tromperie, de et enfin, je trouve que du coup, ça laisse un peu un arrière-goût, un peu de mais en fait, enfin. Sûrement que ça existe, hein, toutes ces choses-là, autant chez les lesbiennes que chez les hétéros ou chez les homo mecs, mais parce que c'est des histoires de relations, hein, mais quand même, enfin.
Mais c'est tout ce courant là, je crois, ça s'appelle le nouveau roman ou je sais plus comment ils appellent ça, mais
je crois que le nouveau roman c'est autre chose.
Non, genre j'ai oublié. Bref,
le postmodernisme, moi j'ai lu.
Ouais, un truc de. Mais comme la chanson française, là, c'était des nouveaux romans français, des pentes. Alors je sais plus comment ils appellent ça, mais ils la mettaient un peu dans les mêmes. Qui se veulent un peu trash. Alors t'as un peu des trucs, voilà, t'as pas mal de cul dans l'histoire. Bon là, elle se drogue. À fond, tout le temps.
Allègrement.
Oui, alors là, alors du coup, voilà, elle passe son temps à se droguer et à baiser avec plein de meufs et plein de mecs. Et au milieu de ça, elle a des questionnements existentiels, quoi. C'est un peu chiant, quoi.
Oui, non, c'est bon. Ça m'a pas passionnée, mais je l'ai lu jusqu'à la fin.
Bravo.
Mais en tout cas, ça a fini par me poser des questions, non pas sur mon orientation sexuelle, mais c'est tout un autre débat, mais plutôt sur, mais en fait, pourquoi on ferait de la littérature, enfin, est-ce que ça existe, la littérature lesbienne? Est-ce que, enfin, quel
est-ce
sens
que les
ça
lesbiennes existent?
Est-ce que les lesbiennes existent?
Oui, Mélanie.
Ça fout pas de ma gueule.
Pardon.
Non, mais c'est vrai. Enfin, je me suis dit, en fait, qu'est-ce que je recherchais là-dedans, puis qu'est-ce que j'y trouve, quoi. Enfin, il y a effectivement, de fait, si j'ai eu cette envie-là, c'est que dans tous les romans que j'ai lus, et j'en ai lu un certain nombre, ben, il y a les relations, elles sont la plupart du temps.
Hétérosexuel
et que moi je me disais bah tiens j'ai envie de découvrir la littérature méconnue qui fait la part belle aux lesbiennes quoi et bon effectivement il y a un peu de tout et de rien en fait là-dedans aussi quoi et il n'y a pas que du bon, il y a des romans de gare, des romans à l'eau de rose à deux balles.
Ah mais... à fond. Mais oui, mais c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en même temps, quand t'as baigné dans la culture hétérosexuelle, ce qui est un peu la norme, quoi, donc t'as forcément baigné dans la culture hétérosexuelle, et que t'en as bouffé jusqu'à l'écœurement, quoi, bah t'es bien contente de trouver des romans lesbiens, t'es bien contente de trouver des séries télé débiles de lesbiennes bourgeoises à Los Angeles, et ouais, t'es contente, quoi. Et après, bon, tu fais un peu le tri, et puis effectivement, il y a du mieux et du moins bien, quoi, mais je peux aussi comprendre le plaisir qu'on a à lire des romans de gare lesbiens, par exemple, avec des histoires à l'eau de rose, dégoulinantes et tout. Bon, ben, pourquoi pas, quoi. Ça, c'est comme une revanche sur Harlequin. Alors bon, nous aussi, on peut avoir envie de lire du Harlequin de temps en temps, tu vois. Ou de regarder une série débile. Enfin, pourquoi? Parce qu'effectivement, les lesbiennes ont porté des mouvements politiques forts et ont été aussi et sont encore actrices de revendications sociales fortes et politiques fortes. Bah on a enfin oui, il y a aussi de la médiocrité, il y a aussi des beaufs quoi. Bon, ben voilà. Mm-hmm. Ouais, c'est ça que je me dis, mais peut-être on peut parler un peu des différentes maisons d'édition
ouais,
qui
exactement,
existent.
Ça peut être pas mal d'avoir quelques clés là-dessus si ça vous intéresse.
Parce que du coup, dans les différents, les, une des maisons d'édition les plus connues, c'est les éditions gays et lesbiennes. Bah aussi parce qu'elles sont bien reconnaissables vu que leur nom est clair.
Oui, on ne peut plus clair.
Elles ont un rayon érotique qui est pas inintéressant. Et qu'est-ce qu'elles publient J'ai oublié. Les éditions gays et lesbiennes, qu'est-ce que... Mais elle publie aussi justement plein de romans. Je dis elle parce que c'est tenu par deux meufs, Anne et Marine Rambard, je crois. Mmh. Et elle publie aussi plein de justement de romans très légers, un peu pas forcément très bien écrits à mon sens. Mais bon, voilà, qui distrayant. Et où les héroïnes sont, où les héros sont gays ou lesbiennes.
Il y a aussi une collection qui est chez les éditions Balin. C'est la collection Le Rayon. Alors c'est une collection qui n'existe plus, mais pas mal de leurs bouquins se trouvent encore en bouquin d'occasion, quoi. Est-ce que tu sais ce qu'ils écrivent?
Ouais, moi je trouve que j'étais vraiment triste que ça disparaisse cette collection-là, parce que je trouve que il y avait un choix éditorial assez intéressant. Et ben notamment si vous trouvez, c'est un de mes romans, c'est pas un roman d'ailleurs, c'est plutôt un livre d'essai, mais un de mes livres préférés de Dorothy Allison, qui est aussi une auteure lesbienne importante. Alors c'est une américaine, elle écrit très très bien, et le roman, un de ses romans les plus connus et qui existe en poche, qui se trouve facilement, c'est l'histoire de Bonne. Et ces essais qui sont intéressants et qui ont été publiés par Le Rayon chez Balan, c'est Peau. Donc Peau,
ah,
comme
oui,
la
oui,
peau.
Oui. Ah oui.
Skin en anglais. Et c'est hyper, moi je trouve, c'est nouveau. Il y a plein d'essais sur plein de sujets politiques, que ce soit sur justement l'écriture et ce rapport à l'écriture, que ce soit sur la question de la classe sociale. Donc Dorothy Allison, c'est une lesbienne qui est issue du white trash. C'est les classes hyper prolétaires blanches américaines. Et du coup, elle fait plein de croisements d'analyses sur les questions de classe sociale et les questions du lesbianisme et du féminisme et du genre et tout. Et je la trouve hyper fine dans ses analyses. Et moi, Dorothy Allison, c'est vraiment une auteure qui a été importante pour moi. Et je vous la conseille vraiment. Mais alors voilà, Peau, ça a été édité il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est plus édité, donc ça se trouve seulement en occasion. Alors, je suis désolée.
Et il me semble que la collection Le Rayon a aussi édité Le Corps Lesbien de Monique Wittig. Tu l'as lu, toi? Moi, je l'ai pas lu.
C'est super compliqué à lire. Hein.
Ah ouais,
ouais, ouais.
Il me semble que c'est un de ses romans.
Ah non, je confonds. Enfin, en tout cas, Monique Wittig, c'est une auteure.
C'est une théoricienne.
Ouais, qui a écrit des romans, de la poésie et des théories importantes sur le lesbianisme. Non, moi j'ai pas vraiment lu.
Mm-hmm. Okay.
Ça m'a paru trop. Ça m'a pas donné envie. J'avoue.
Mm-hmm. Il y a aussi la maison d'édition KTM, c'est ça? C'est une maison d'édition française qui date de 98.
Alors ça, c'est une maison d'édition spécifiquement lesbienne.
Ouais, et non pas gay et lesbienne.
Voilà. Qui publie un bon nombre de merde.
Les romans à l'eau de rose, hein, qu'on aime bien lire dans les trains.
Voilà. Mais ouais, dans les auteurs que j'avais envie de citer aussi et qui sont notamment publiés par KTM, il me semble, et aussi par les éditions gays et lesbiennes. Enfin, c'est une des auteurs connues françaises, c'est Si Young. Alors Si Young, elle a écrit par exemple Cunu, qui est un recueil de nouvelles érotiques. Elle a aussi écrit pas mal de petits bouquins, justement aux éditions gays et lesbiennes, elle a écrit pas mal de petits bouquins à l'eau de rose. Mais fait exprès, quoi. Du coup, c'est assez marrant parce que c'est assumé et tout. Et en même temps, tu sens la distance. Enfin, il y a un truc assez rigolo de les lire. Je ne sais plus les titres, mais bon, ils se trouvent. Hein.
Donc, Si Young, ça s'écrit C-Y, plus loin, J-U-N-G.
Voilà. Et c'est une des auteures françaises lesbiennes, assez connues et reconnues, et qui écrit pas mal. Enfin, c'est pas toujours égal, mais il y a des bons romans. Elle a aussi écrit Mathilde, je l'ai rencontrée dans un train. Celui-là, il est.
Bon, ben c'est bien beau d'avoir toutes ces maisons d'édition, mais on se posait aussi la question de où est-ce qu'on pouvait trouver tous ces livres, et pas que sur Internet, sur les sites des maisons d'édition. Et bah du coup, à Grenoble...
C'est dur.
Mais il y a quand même l'association Les Voix d'Elle, dont on a déjà parlé pendant à l'émission, quoi, à Calibre, qui a son local 8 rue Sergent Bobillot, qui a une bibliothèque de bouquins autour du lesbianisme. Donc je pense qu'il n'y a pas que des romans,
mais il y a beaucoup de romans.
Donc faut les contacter pour savoir quand est-ce qu'elles font leur permanence.
Bah c'est tous les lundis leur permanence.
Ah bon, bah,
c'est tous les lundis si de 19h30 à 21h30 et voilà, elles font une permanence, donc c'est possible d'aller les rencontrer et puis c'est possible d'emprunter les livres et tout. Et t'as donné le numéro de téléphone déjà ?
Non. Le 04 76 85 20 64.
Voilà. Et il y a une répondeuse pour dire les événements de l'association aussi.
Et du coup, on s'est dit que les librairies, on pourrait pas vous en conseiller parce que peut-être que vous allez trouver des bouquins dans les librairies, mais que on est sûr de rien, quoi.
En tout cas, il me semble pas qu'à Grenoble, il y ait une librairie où il y ait un rayon ou un coin spécifiquement avec ces romans-là. Et je pense que au hasard des rayons, c'est très rare de trouver ces maisons d'édition diffusées. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a aussi des librairies spécialisées. Alors malheureusement, il y en a surtout à Paris.
Voilà, et notamment la librairie qui s'appelle Violette & Co.
Voilà, à qui on veut bien faire de la pub, parce que c'est une chouette librairie. C'est dur de ressortir sans avoir dépensé plein de sous dans tous les bouquins bien qu'elles ont.
Oui, parce qu'il n'y a pas que des... C'est une librairie assez riche.
Ouais. Moi, je sais pas son adresse, Violette & Co.
À côté du métro Charonne, mais vous trouverez facilement, puis on mettra ça peut-être sur le site de l'émission, l'adresse, mais voilà, c'est à côté du métro Charonne, j'ai plus l'adresse en tête.
D'accord.
Mais voilà, elles ont un site en tout cas, c'est assez facile, Violette & Co.
Et aussi, si effectivement on n'a pas de fric et qu'on a quand même envie de lire des livres, c'est possible aussi à Paris d'emprunter des livres, tu disais, au centre LGBT.
Voilà. C'est pareil, on mettra l'adresse sur Internet parce qu'on n'a pas toutes les adresses avec nous, mais voilà, le centre LGBT qui fait plein de choses différentes et notamment qui a une bibliothèque où les livres sont aussi empruntables.
Voilà, avant de peut-être, je sais pas si on a encore d'autres choses à dire sur le sujet, donc peut-être on va s'écouter un petit morceau de musique.
Ouais.
Mais avant ça, je voulais quand même dire que si ça fait pas que 20 ans qu'il y a des lesbiennes qui écrivent, ça fait un peu plus avant, et j'avais envie de citer Violette Leduc.
Ah oui,
qui
oui.
Qui est quand même une auteure, donc, qui a écrit vers la moitié du 20e siècle, et qui a notamment écrit Thérèse et Isabelle, que je trouve assez drôle et que je vous conseille vraiment. Alors, pour le coup, ça se trouve en poche chez je sais plus quel éditeur courant, parce que c'est une auteure reconnue, vous voyez. Elle a écrit La Bâtarde, mais qui est moins accessible et plus dure à lire, je trouve. Et Thérèse et Isabelle, c'est tout petit et c'est très très drôle.
Il paraît qu'elle était amoureuse de Simone de Beauvoir.
C'est vrai ?
Ouais.
Ah, moi je croyais qu'elle était amoureuse de Colette.
Ah bah peut-être elle avait plusieurs amours.
Bon, on fera le point sur les ragots du 20e siècle.
Pardon, raconte donc l'histoire de Thérèse et...
C'est l'histoire de deux collégiennes qui sont à l'internat et voilà, je vous en dis pas plus. Mais c'est assez croustillant.
Et alors qu'est-ce qu'on s'écoute ?
I Wanna Be a Butch, des Reines Prochaines.
I wanna be a butch. I wanna be a butch. Ghost butch. Ich bin eine Femme.
Ach was, hör doch auf.
Doch ist wahr.
So ein Scheiß.
Ist kein Scheiß.
Alle, die es zu was gebracht haben, sind Butch.
Sagt Frau Butch. Die kann ja gut reden.
Die ist ja auch eine.
Alle Sumo-Kämpferinnen sind Butch. Alle Stierkämpferinnen sind Butch. Butler ist Butch. Dreyfus ist Butch. Auch Dvorak hat als Metzger begonnen. Shakespeare war Metzger. Sogar Pippi Lotti hat in der Wurstabteilung angefangen. Ich freue mich wirklich auf mein erstes Schaf.
De Calibre sur Radio Kaléidoscope 97 FM, et ou alors peut-être que vous nous écoutez en différé parce que vous avez trouvé notre émission sur notre site internet.
Mais peut-être que vous nous écoutez aussi en direct parce que vous avez trouvé notre site internet.
Enfin voilà, peut-être que vous avez envie de nous appeler aussi parce que c'est une émission où on peut nous appeler pour nous poser des questions, pour nous livrer un témoignage, pour discuter avec nous sur tout ce qui toucherait aux questions de corps, d'amour, de sexualité. Et si vous, vous avez envie de nous appeler, c'est au 04 76 09 09 09. Mais c'était aussi une manière de dire, tu vois, c'est possible de nous écouter en différé sur Internet, de retrouver nos émissions et peut-être de donner notre adresse Internet.
Oui, alors on n'aurait qu'à le faire maintenant.
Voilà.
Alors, c'est http://2. Bref, mais il n'y a pas de 3W, ça c'est sûr. Après, c'est Calibre, c'est as-libre au pluriel, point, poivron, comme le légume, point org.
Voilà, et là vous trouvez toutes nos émissions. De toute la vie de Calibre.
Mm-mm.
Un an et demi, quoi.
C'est déjà pas mal, un an et demi.
Ok. On change complètement de sujet, là.
Alors, l'actualité incroyable. Vous avez peut-être vu ça un peu dans la presse, parce que j'ai vu ça que dans la presse, moi, en tout cas. En fait, au mois de janvier, il y a eu un truc qui s'est passé. Il y a la cour d'appel d'Angers qui a remis en question... donc a carrément annulé le statut de pupille d'État d'un bébé qui était né en juin 2009. Donc en fait, la femme qui avait accouché de ce bébé avait décidé d'accoucher sous X, et les parents de cette femme ont décidé qu'ils voulaient conserver la garde de l'enfant, et du coup ils ont entamé une procédure juridique pour obtenir la garde de l'enfant. Et c'est ce qui a abouti, en fait. Et du coup, ben quelque part, ça remet en question
la possibilité d'accoucher sous X.
Pas directement. En tout cas, ça remet, elle, en cause l'anonymat qu'elle avait choisi en accouchant, en fait, puisque du coup, accoucher sous X, ça veut dire quoi? C'est accoucher et ne pas donner son identité immédiatement, en fait. Voilà. Et du coup, les parents étaient au courant de son accouchement et du coup, le fait que l'enfant soit gardé par ses grands-parents, il y a plus d'anonymat, en fait. C'est juste une blague, quoi.
Mais en fait, c'est pas une blague. C'est probablement que les grands-parents, ils refusent que leur fille n'assume pas sa maternité. Et du coup, c'est sûrement une façon, un moyen de faire pression sur cette femme pour qu'elle garde l'enfant dont elle ne voulait pas. J'imagine.
Ou en tout cas, lui rappeler tous les jours que cet enfant existe et qu'elle est issue de son ventre, quoi.
Voilà.
Bref, et en tout cas, parallèlement à ça, il y a aussi, dans le même temps, une députée d'ailleurs, Brigitte Barège, qui a pondu un rapport qui remet en cause, qui propose des modifications de la loi de 2002 qui définit un peu les conditions de l'accouchement sous X. Alors peut-être qu'avant de vous expliquer c'est quoi les modifications, on peut peut-être revoir comment ça se passe depuis cette loi de 2002.
Oui, c'est vrai, ça serait bien. Alors.
Bon, en gros, on va pas forcément faire le détail de la loi ou quoi, mais en gros ça fait que une femme elle peut aller à l'hôpital et accoucher sans donner son identité. Et puis elle peut même être accueillie un mois avant son accouchement et un mois après, toujours sans avoir besoin de justifier son identité, et elle est complètement prise en charge. Et du coup, une fois que l'enfant a deux mois, si elle a toujours pas souhaité reconnaître l'enfant, l'enfant
est mis à l'adoption.
Voilà, on peut adopter cet enfant. Dans le même, enfin, quand elle accouche, cette femme, on lui propose, elle n'est pas obligée de donner son identité ou des infos concernant son parcours, son histoire, et ces informations-là, elles sont conservées secrètement. Enfin, elles sont conservées par le CNAOP, c'est le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles. Et mais elle n'est pas obligée de le faire. Ça, c'est très important. Et si elle le fait, à la majorité de l'enfant, l'enfant peut demander à avoir ces informations. À ce moment-là, le CNAOP demande à la mère si elle est toujours d'accord pour donner ces informations à l'enfant. Et si c'est le cas, l'enfant récupère ses données et peut contacter sa génitrice s'il le souhaite. Mmh. Voilà. Et du coup, ce que propose le rapport Barège, c'est de obligatoirement récupérer les données et les données concernant la génitrice et de les donner à l'enfant systématiquement, voilà.
Et la majorité.
Non, pas de les donner systématiquement, les données que si l'enfant le demande.
Ah.
Voilà. Donc l'enfant, en tout cas la mère, elle, c'est plus un accouchement sous X en fait quelque part.
Oui. Du coup, ce serait si ça passait comme loi, ça annulerait la possibilité d'accoucher anonymement.
Voilà, exactement.
Ah oui, mais c'est grave.
Ouh, c'est grave.
Ouh, c'est très en vérité, c'est je trouve ça hyper dangereux de perdre cette possibilité-là en fait, parce qu'il faut un peu essayer de comprendre quel est l'intérêt pour les femmes de pouvoir accoucher sous X et qu'elle sent ça, et si c'est, et de perdre cette possibilité là et ce droit là, effectivement ça me semble très dommageable pour les droits des femmes en général.
Alors ce qu'il faut voir, c'est que pourquoi ça irait dans ce sens là en fait, parce que on peut se dire bah oui, le droit des femmes, super, tout le monde est d'accord, hein, mais pourquoi en fait l'évolution elle va plutôt vers la remise en question de cette possibilité de l'anonymat? C'est parce qu'on, enfin les partisans de cette levée du secret, en fait ils considèrent que les enfants ont droit à avoir accès à leurs origines biologiques, de savoir de qui est leur génitrice, quoi.
Mais c'est ça qui est très compliqué dans ce débat-là, c'est qu'effectivement on fait face à des besoins contradictoires, qui sont les besoins des femmes à pouvoir accoucher sous X, et le besoin de n'importe qui, n'importe quel individu, de qui pourrait être né d'une femme qui a accouché sous X, de connaître, de savoir d'où il ou elle vient. Et de... Alors moi, ça, je sais pas si je me sens tranchée là-dedans. Il me semble que c'est ça me semble très compliqué. Et puis, je trouve ça quand même très important pour les femmes qu'elles puissent accoucher sous X. Mais en fait, ce qui me dérange, je crois, là, dans ça, c'est dans ce besoin-là, dans ce rapport aux origines et tout, c'est justement le côté très biologique de l'affaire. Parce qu'il me semble qu'ils font également ça pour les histoires de dons de spermatozoïdes et d'ovules.
Ouais. Il y a une évolution aussi dans le même sens. Ouais.
Voilà. Et ben, c'est tout ce rapport au biologique où aujourd'hui, c'est hyper important de connaître son capital génétique. Est-ce que combien de cancers du sein et de je sais pas quoi il y a eu dans sa famille? Et tout, vous voyez, un rapport comme ça, là, où on, de maîtrise de la biologie pour aller vers plus de santé, toujours, là, et puis de réduire les risques des. Enfin, un rapport comme ça qui, moi, me dérange un petit peu. Hein, et c'est une évolution politique, moi, je pense, en plus, hein, de la société qui me convient pas trop. Donc.
Moi, j'irais même plus loin parce que je pense que c'est pas tant. Enfin, c'est beaucoup, mais c'est pas que. L'histoire d'avoir des infos pour avoir une meilleure santé, que de penser que finalement notre identité, elle est liée aux gènes, quoi. Enfin, alors que et du coup à notre patrimoine génétique. Alors que moi, je en tout cas, c'est mon avis. Je pense qu'on est notre histoire sociale beaucoup plus que nos gènes. Et du coup, en fait, de mon point de vue. Les enfants accouchés sous X, en fait, leur histoire, elle commence avec leur famille d'adoption et voilà, elles sont moi je suis on est le produit de sa famille, quoi, et du coup la famille c'est les personnes avec qui on grandit et enfin je sais pas.
Moi j'aurais également envie de défendre ça que la famille c'est quoi, c'est le sang ou c'est la famille de cœur, enfin bon je serais bien partisane de défendre la famille de cœur plutôt que la famille de sang, je sais pas quoi, le lien du sang ça me parle pas spécialement et ça me paraît pas spécialement intéressant. Sauf qu'il me semble qu'on est dans une société qui valorise quand même plutôt ça et qu'on peut pas nier justement je pense ce besoin de savoir. C'est ça qui est compliqué pour moi dans ce débat-là, c'est que effectivement des personnes qui ont été abandonnées par leur mère biologique. Bon, et alors dans cette histoire, on parle jamais des pères d'ailleurs, parce qu'alors eux, leur responsabilité, on sait pas où elle est. Enfin, ou quand on en parle, ça devient justement un peu chelou et un peu bizarre, quoi.
Sachant qu'un géniteur peut reconnaître son enfant
et l'élever tout seul,
et l'élever toute seule, même si la femme a accouché sous X.
Ah ouais.
Ouais. Il suffit de connaître l'identité dans lequel l'enfant a été déclaré, c'est-à-dire que la mère la femme, non pas la mère d'ailleurs, la femme quand elle accouche, elle peut donner en fait un certain nombre de prénoms à cet enfant c'est pas parce qu'un enfant il a pas de parents qu'il a pas de nom, quoi. Et si le géniteur connaît ces noms, il peut reconnaître, il a aussi lui aussi 2 mois pour reconnaître l'enfant et du coup avoir tous les, assumer son droit de paternité, voilà. Donc ils existent quand même, les pères.
D'accord, très bien, bonne précision. Et du coup moi l'idée que je voulais dire, c'est que je peux comprendre effectivement ce besoin de connaître son histoire, de connaître l'histoire, et ce besoin là, je sais pas quoi en faire face à pour moi cette liberté qui pour moi est importante pour une femme de pouvoir abandonner son, enfin de pouvoir, en fait on, avant l'émission, là, on parlait justement de ce rapport entre la contraception, l'accès à la contraception, l'accès à l'IVG, l'accès à l'accouchement sous X et ou à l'abandon de ses enfants, c'est-à-dire de ne pas avoir envie d'être mère. Et t'avais des chiffres d'ailleurs qui sont intéressants sur l'évolution de ces accouchements sous X.
Alors ouais, si on en est un peu aux chiffres, il y a en moyenne 600 accouchements sous X par an actuellement.
En France.
En France. Oui, parce que l'accouchement sous X en Europe, ça n'existe aujourd'hui plus qu'en France et en Italie. Donc c'est aussi souvent considéré comme une pratique archaïque et tout ça. Enfin, sans moi, j'ai pas de jugement là-dessus, mais du coup c'est le cas.
Dans les autres pays, si ça veut dire que dans les autres pays, comment tu fais? Tu peux abandonner ton enfant à la naissance, mais tu as quand même ton identité.
Et quand même, oui. De toute façon, tu peux aussi abandonner ton enfant en donnant ton identité. Oui. Enfin, c'est l'accouchement sous X tel qu'il est aujourd'hui, c'est une des possibilités de remettre en question sa parentalité, quoi.
Oui.
C'est voilà. C'est où là la condition, c'est l'anonymat, quoi. Il y en avait, donc, il y en a 600 en moyenne aujourd'hui, il y en avait 10 000 dans les années 70. Et du coup, c'est interprété comme, aujourd'hui, les femmes ont un meilleur accès à l'IVG, à la contraception, et du coup, sont moins, font moins le choix d'accoucher sous X, quoi.
Oui, mais c'est probablement lié, effectivement. Après, moi, j'ai toujours envie de faire très attention à ne pas mettre les différents moyens de dealer avec sa fécondité durant sa vie, et de pas mettre ces différents moyens là en compétition, quoi. On entend beaucoup ça, hein, même. Donc, on parlait d'avortement là, que alors aujourd'hui que c'est si facile de prendre la pilule et d'avoir accès à la contraception, mais comment ça se fait que les femmes elles avortent encore? Donc à un moment on pourrait même aller jusque là, mais alors comment ça se fait qu'il y a des femmes qui en arrivent encore à vouloir accoucher sous X avec toutes ces possibilités qu'elles ont? C'est pas si simple, c'est pas si vrai. Moi j'ai toujours envie de valoriser le fait que sur mettons une moyenne de 40 ans de fécondabilité là.
Fécondité
même, tout ce court.
Mm-hmm.
potentiellement, pour les femmes hétérosexuelles, baiser avec pas mal de fois. Ouais, une IVG ou quelques IVG dans une vie, c'est pas beaucoup d'échecs.
Mm-hmm.
Et moi, quand j'entends, et je l'entends hein, dans différents lieux, et même certains lieux comme les plannings des fois, ça existe encore d'échecs à la contraception, ça m'énerve, quoi. Enfin, oui, d'accord, échecs, et alors, on est des machines, on devrait toujours réussir tout, on devrait gérer toute sa vie parfaitement, et ne jamais...
Se retrouver dans des situations qu'on n'a pas maîtrisées.
Voilà, et qu'on n'a pas choisies, et par exemple, enceinte, au-delà des délais d'avortement, enfin, quelles que soient les raisons de ne pas avoir avorté, et de tout de même ne pas souhaiter d'enfants dans sa vie, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la possibilité d'accoucher sous X, par exemple. Et du coup, c'est pour ça que c'est très important, ce droit-là, et que c'est très inquiétant qu'il soit menacé aujourd'hui, en plus par des trucs, des rapports comme ça, qui est c'est même pas des lois, là, du coup, c'est effectivement des décisions de tribunaux qui feraient jurisprudence.
Et qui, du coup, accéléreraient une modification de la loi actuelle, quoi. Peut-être on s'écoute une petite musique pour faire une petite pause. Vous pouvez réagir sur ce sujet en nous appelant au 04 76 09 09 09.
Ça nous intéresse vraiment en plus, hein, parce qu'on avec Mélanie on en discutait, on n'a pas tout, on n'est pas sûr de tout, quoi. Enfin, en général, on a aussi des questionnements et ça nous semble une discussion qui ouvre sur plein de débats très intéressants. Bref, on se retrouve après The Ting Tings, Shut Up and Let Me Go.
Shut up and let me go. This hurts, I tell you.
Vous écoutez toujours Calibre sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Et donc là, on touche un peu à la fin de l'émission, mais il est toujours temps de nous appeler si vous avez envie de nous poser une question sur quel que soit le sujet autour du corps, des questions des relations amoureuses et ou de la sexualité. Et voilà, 04 76 09 09 09, si vous avez envie de nous appeler. Nous, on parlait
D'accouchement sous X. Voilà. Et puis moi, j'avais bien envie de parler d'un article qui remet un peu en cause le fait que le secret de l'accouchement, enfin dans lequel mettrait, enfin le couvert qu'on mettrait sur les origines dans le cas d'un accouchement sous X. Parce que je trouve que c'est assez rare qu'on entende ça. Et du coup, ça veut pas dire que qu'on pense que c'est simple de pas connaître ses géniteurs et tout ça. Moi, je voudrais vraiment pas qu'on pense ça. Pour autant, voilà, on est toujours dans le truc là, c'est vraiment dramatique, les pauvres individus qui connaissent pas leurs géniteurs et tout ça. Enfin, moi j'ai un peu envie de discuter de ça quoi. Et du coup, je suis tombée sur un article qui est paru dans Le Monde et de Christian Flavini. Et qui rappelle quand non c'est même pas lui qui rappelle excusez-moi c'est une autre donnée mais je parlerai de l'article après que en fait parmi ces 600 personnes qui sont accouchées par enfin
qui naissent
dans le cadre d'un accouchement sous X, il y en a actuellement que 5% qui à leur majorité font des recherches pour retrouver leur génitrice. Oui. Et que d'après les études, il y en a 50% de ces 5% qui aboutissent à des retrouvailles comme on lit parfois quoi.
D'accord. C'est très peu, 5%, effectivement.
Voilà. Donc, ça veut pas dire que les 95% ils vivent bien cette situation.
Ou qu'ils n'y pensent jamais, ou qu'elles s'en foutent complètement, effectivement. On peut pas savoir.
Mais en
tout cas, ces personnes-là ne vont pas à la recherche active de l'identité de celle qui les a portées pendant 9 mois.
Voilà. Et sinon, bah du coup, ce Christian Flavini, il lui, de son avis, c'est que au contraire, le secret, c'est peut-être la meilleure chose qui puisse arriver et aux génitrices et aux enfants nés dans ce cadre-là, parce que. C'est un peu pas facile à vous expliquer tout ça, mais en gros, lui, il dit que le fait de refuser ce statut de mère et de conserver le secret, bah, ça permet que ce truc-là, ça perdure dans le temps. Alors que le fait que l'identité, elle soit à un moment donné accessible à l'enfant, bah, ça met en danger, en fait, la femme dans son choix. Et que par ailleurs pour l'enfant qui a effectivement des questionnements sur ses origines, et je pense que quelles que soient les situations dans lesquelles on est né, on a toutes et tous des questions là-dessus sur finalement quelles sont les conditions de notre procréation, comment nos parents ont eu envie de nous avoir et tout ça. Je crois que c'est toujours des questions qu'on a tous et toutes quoi. Et ben que le fait de donner accès à l'enfant, je suis vraiment pas claire, je suis désolée.
Le fait que les enfants nés d'accouchement sous X aient accès à ces informations,
que ça serait un leurre, parce que du coup ça leur donnerait l'illusion qu'ils vont trouver des réponses là-dedans dans la retrouvaille qu'ils peuvent avoir de ces personnes-là, quoi.
Oui. Mais c'est hyper compliqué parce qu'en fait, comme tu dis, c'est des questionnements qui nous traversent tous et toutes à des moments d'où on vient. Est-ce qu'on a été désiré par nos parents? Comment? Pourquoi? Et ces questionnements-là, on les a parce qu'on vit dans cette société-là où c'est tellement important. Ça nous est présenté comme tellement important, la famille, nos origines, justement. Et puis alors, avec des trucs plus ou moins valables et plus ou moins intéressants, d'ailleurs. d'où on vient, est-ce que c'est important qu'on vienne de tel endroit ou de tel autre sur cette terre, est-ce que c'est tellement important que ça, enfin bon.
En tout cas, moi ce que je me dis, c'est que ça peut être intéressant de discuter avec des personnes qui sont dans cette situation et qui ont retrouvé ou pas les personnes, parce que des fois, là on parle d'accouchement sous X, donc c'est plus relié à la mère, mais moi je connais aussi plein de gens qui connaissent pas l'identité de leur père, et du coup certaines personnes ont finalement retrouvé leur père, certaines autres non. Et ben même dans les situations où on retrouve un de nos géniteurs, ben qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a l'impression qu'on a trouvé quelque chose ou pas? À quoi ça répond? À quoi ça répond pas?
Moi, ce que je trouve hyper compliqué sur ces questions-là, de toute façon, c'est que là, ça relève de la psychologie. Enfin, toutes les analyses qu'on va entendre relèvent souvent de la psychologie, et que je trouve très compliqué, moi, de faire comme ça des thèses sur la psychologie des gens, en les extrayant complètement de contextes sociaux, historiques, culturels. Je ne suis pas du tout sûre que ce soit la même chose de naître sous X aujourd'hui qu'il y a 200 ans. Je ne suis pas du tout sûre que ce soit la même chose de naître d'une famille monoparentale, c'est-à-dire de naître d'une mère qui ne sait pas qui a été le géniteur ou l'a oublié. Et donc de grandir qu'avec une maman seule, je pense que c'est pas du tout la même chose aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Et d'ailleurs... toutes les réflexions qu'il y a sur l'homoparentalité, sur la possibilité de grandir avec deux mamans ou deux papas, deux mamans et deux papas, enfin, ces choses qui sont justement très intéressantes pour nous permettre aussi d'envisager autre chose en termes de parentalité. C'est toujours aussi intéressant d'aller voir comment ça se passe dans d'autres pays. Enfin, tout ça pour dire, moi, je pense qu'il faut faire très très attention quand on, avec ces trucs-là, de dire ah, psychologiquement, c'est forcément
un traumatisme,
c'est forcément difficile de ne pas connaître ses origines. Oui, enfin, et là, encore une fois, on veut pas nier les réalités qui sont que probablement pour un certain nombre de personnes, c'est pas évident, probablement que ça pose des questions et tout, mais voilà, moi, je pense que c'est ça qui me dérange, c'est quand on fait des espèces de lois psychologiques.
Oui, mais du coup, c'est difficile d'avoir un discours généralisant là-dessus. Effectivement, c'est toujours des situations et individuelles et sociales, historiques, etc. Le fait est que on fait des lois qui encadrent ces pratiques-là, et tu parles de l'homoparentalité. Bah aujourd'hui, c'est quelque chose qui est quasi impossible en France. Et il y a encore eu un truc il y a pas très longtemps de nanas qui se sont battues pour adopter. Qu'ont échoué, donc enfin c'est il y a des lois quoi, et c'est ça qui est souvent délicat quoi, enfin dans quelle mesure les lois elles peuvent à un moment donné protéger des personnes et à quel moment elles deviennent contraignantes dans le sens où elles empêchent de vivre d'autres choses, où elles obligent des personnes à vivre une parentalité quand elles le souhaitent pas.
Ouais, mais c'est comme avant, en préparant l'émission aussi, on parlait de ce film là, Juno, qui porte un peu à polémique, parce que du coup c'est l'histoire d'une jeune adolescente de 15 ans qui tombe enceinte.
Ça se passe aux États-Unis.
Ça se passe aux États-Unis, c'est ça qui est intéressant. Et c'est parce que tout à l'heure je parlais dans d'autres pays et tout. Donc aux États-Unis, elle a 15 ans, elle tombe enceinte après son premier rapport sexuel. Bam, elle a pas du tout envie, elle a pas du tout envie d'être enceinte, elle a pas du tout envie d'un enfant. Elle est très carrée, très rationnelle. Le personnage est assez marrant. Bref, elle essaye d'avorter au début et puis finalement elle rencontre une anti-IVG qui la dégoûte de ça. Donc elle décide de pas avorter finalement parce qu'en fait elle a un blocage et finalement elle va trouver un couple qui désire un enfant. Et elle va du coup porter l'enfant jusqu'à terme pour leur donner quoi. Alors bon, du coup, ça a fait un peu débat dans les milieux féministes parce que ça a paru un peu anti-IVG. Et effectivement, c'est il y a ce côté-là dans le film, quoi. Bon, comme beaucoup de films et de séries ou de trucs qui viennent des États-Unis, hein. Je sais pas si vous avez déjà vu une série télé où c'était une possibilité pour la meuf d'avorter quand elle tombe enceinte. La plupart du temps, ça n'existe même pas comme possibilité. Enfin, l'avortement aux États-Unis, c'est une catastrophe, quoi, hein, en termes de morale qui est posée dessus et d'accès à ça, c'est vraiment très très dur.
Mais c'est vrai que là, dans ce film, la solution la plus simple pour le personnage et peut-être pour les Américaines aujourd'hui, c'est plutôt de mener à terme sa grossesse et de mettre l'enfant, d'abandonner l'enfant et de le mettre à l'adoption et pas à l'avortement, quoi.
Voilà. Et alors moi, si je dois donner mon opinion, très personnellement, j'ai toujours trouvé ça très bizarre. Aux États-Unis, il semble plus moral d'abandonner son enfant que d'avorter à 2 mois. Alors moi je sais pas, hein, pourquoi pas, enfin je trouve ça intéressant en fait toujours d'aller regarder dans d'autres endroits comment ça se passe et comment effectivement ça semble assez simple, quoi. Bon, je sais pas dans la réalité est-ce que ça l'est vraiment et quel poids moral il y a sur ces femmes-là qui font ce choix d'abandonner leurs enfants, mais dans le film ça paraît un peu comme une grande générosité d'offrir le bébé qui sort de son ventre à un couple qui ne peut pas en avoir, vous voyez.
Et en tout cas ça a pas l'air de lui poser un cas de conscience et ça je trouve que c'est effectivement intéressant à voir parce que on lit souvent aussi l'accouchement sous X a des traumatismes pour les femmes qui décident à un moment donné parce que elles sont pas en mesure d'élever l'enfant ou quoi, à des traumatismes à vie qui peut-être existent, mais en tout cas c'est systématique, hein. C'est ça qui est gênant, quoi, que elles vivent forcément avec il y a une association qui s'appelle les mères de l'ombre, ou enfin moi ça, il y a un truc
donc pour revenir sur le film, un des points positifs du film, moi, c'est justement cet ado qui en fait en a rien à foutre, elle veut en finir avec cette grossesse, elle en a pour quelques mois et après ce sera fini, hop, elle passera à autre chose. Elle ne dit jamais le mot bébé en parlant de ce qu'elle a dans son ventre, elle dit toujours la chose, le truc, enfin il y a un espèce de détachement comme ça que je trouve assez intéressant, parce que justement en fait, c'est encore une fois, c'est pas pour nier la réalité des ressentis de probablement de nombreuses femmes qui vivent dans la culpabilité d'avoir accouché sous X, d'avoir abandonné leur enfant, enfin d'ailleurs leur enfant, le bébé qui est sorti de leur ventre et tout ça. Mais encore une fois, ça, on peut pas faire des lois psychologiques là-dessus. C'est vu la pression morale qu'il y a dans notre société sur la maternité et sur le devoir de maternité des femmes, vu moi ce que j'appellerais l'idéologie politique du soi-disant instinct maternel et de que les humaines justement mettraient forcément des tonnes de sens dans le fait d'être en gestation. Effectivement ça me paraît bien compliqué de pouvoir vivre une vie sereine en ayant contrevenu à la norme, que ce soit en ayant avorté ou en ayant abandonné son bébé, le bébé qui est sorti de son ventre à la naissance. Effectivement, ça ne m'étonne pas que ce soit très compliqué pour elle, étant donné le poids moral qu'il y a dessus.
Et en même temps, je pense que pour certaines femmes, c'est aussi très compliqué du fait de cette pression de le garder. Enfin, il y a les deux, c'est un peu des fois la double peine, quoi. Et les raisons, la plupart du temps, enfin, c'est souvent des raisons matérielles, hein, mais je pense que pour une bonne part, c'est aussi parce qu'elles se sentent incapables d'être la mère qu'on voudrait bien qu'elle soit, et voilà, quoi. Du coup, elles culpabilisent et elles ont trop la pression pour l'être et elles culpabilisent d'avoir fait ce choix-là, quoi. Enfin.
Ah, ça ouvre plein de débats, mais alors il est 21h. Et Calif, c'est de 20h à 21h. Alors,
donc c'est fini.
C'est fini pour ce soir. J'imagine que c'est une question qui donne envie de réfléchir encore et encore. Il existe peu de livres d'écrits sur ces idées-là et tout, mais il en existe quand même. Alors voilà, si vous avez si vous connaissez des livres, si vous avez des trucs à nous conseiller sur ces questions-là pour avancer ensemble sur ces réflexions qui nous paraissent hyper importantes, que ce soit du coup, parce que forcément on en vient au lien avec la maternité et tout ça. Et ben voilà, vous savez que vous pouvez nous écrire à calibre-libre au pluriel @poivron.org. vous savez que vous pouvez nous appeler la semaine prochaine ou n'importe quel jeudi.
De 20h à 21h.
Voilà, au 04 76 09 09 09. On vous laisse pour ce soir.
On fait juste une petite annonce quand même.
Ah mais oui, c'est vrai, avec tout ça j'en ai oublié notre premier sujet.
Moi j'ai pas oublié.
Bravo. Alors pour les Grenoblois et les Grenobloises, justement tout à l'heure on parlait d'écrivaines lesbiennes, alors il y a aussi les artistes. Et les artistes dans, par exemple, l'histoire de la peinture, est-ce qu'on connaît des peintres lesbiennes du 19e siècle ou du 20e siècle? T'en connais, toi?
Bah, peut-être que j'en connais, mais que je sais pas quelles sont lesbiennes aussi.
Ouais, tu connais beaucoup de femmes peintres du 19e siècle?
Non, c'est vrai. Ok, t'as raison.
Bon, en tout cas, il va y avoir une conférence le mercredi 23 février à Antigone, qui est un lieu dont on fait souvent la pub parce qu'on l'aime bien, un café bibliothèque associatif, 22 rue des Violettes à Grenoble, tram C, arrêt Vallier. Calmette. Catane.
Bref, entre Catane et le cours Jean Jaurès, par là.
Voilà. Et donc, le 23 février, à 20h, une conférence sur les artistes peintres lesbiennes, donc dans l'histoire de l'art, et un peu du coup la place des lesbiennes dans l'histoire de l'art.
Et aussi le rapport du lesbianisme avec l'art. Enfin, c'est un peu le...
Voilà.
Il y a aussi un peu un truc... Est-ce que dans l'art, le lesbianisme joue? Enfin, il y a un truc un peu comme ça, non? Il
me Probablement. Semble. Mais à vrai dire, je n'ai jamais vu cette conférence et j'ai hâte d'y être.
Oh oh.
Voilà, ben, venez à Antigone le 23 février à 20h, quoi.
Ok, bah c'était Calibre, on était le 10 février, à la technique il y avait Modelora, au micro Marina et Mélanie, et on vous dit à la semaine prochaine.
Et merci à nos visiteurs et visiteuses.
Corps,
amour,
sexualité. Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.